Chapitre 7. Cœur de loup. Une des conceptions du vif les plus répandues et les plus erronées veut qu'il s'agisse du pouvoir que possède un humain d'imposer sa volonté à une bête. Dans presque toutes les mises en garde sous forme de contes que l'on entend à propos de cette magie, on retrouve un personnage mauvais qui emploie son influence sur les animaux, à poils ou à plumes, pour nuire à ses voisins. Dans nombre de ces histoires, le magicien à l'âme noire reçoit un juste châtiment quand ses serviteurs inférieurs se retournent contre lui pour le rabaisser à leur niveau, révélant ainsi à ses victimes humaines sa véritable nature. En réalité, le don du vif se partage également entre les animaux et les hommes. Tous les humains ne manifestent pas la capacité de tisser avec une bête le lien particulier qui forme le cœur du vif. Et tous les animaux ne possèdent pas une aptitude absolue pour ce lien. En outre, parmi les créatures qui en sont dotées, seul un petit nombre désire une telle attache avec un humain. Pour que le lien se crée, il doit y avoir réciprocité et égalité entre les deux protagonistes. Dans les familles au vif, lorsque le plus jeune des enfants parvient à la majorité, on lui confie une sorte de quête. Chercher un compagnon animal. Il ne s'en va pas le nez au vent prendre la première bête douée qu'il rencontre pour la plier à sa volonté. Non, il se met en route avec l'espoir de rencontrer une créature, sauvage ou domestique, dotée d'une forme d'esprit similaire à la sienne et attirée par la perspective d'un lien de vif. En termes simples, pour que naisse un lien de vif, animal et humain doivent posséder un don égal. Un vifier peut parvenir à un certain degré de communication avec tout animal ou presque, mais il ne formera aucun lien s'il ne trouve pas un animal qui partage un talent et une inclination semblable au sien. Cependant, toute relation porte en soi le germe du dérèglement. De même qu'un mari peut battre sa femme ou une épouse renier l'âme de son conjoint en le rabaissant constamment, un humain peut dominer son compagnon de vif. Ce cas trouve peut-être sa forme la plus classique quand un individu choisit un compagnon animal alors que ce dernier est encore beaucoup trop jeune pour prendre toute la mesure d'une décision qui engage sa vie entière. À l'inverse, il arrive que des animaux avilissent ou régentent ceux qui se trouvent liés à eux. On en voit des exemples, bien qu'ils restent rares. Chez ceux du lignage, on dit que la ballade, bien connue de Vagabond fils gris, est tirée de l'histoire d'un homme qui aurait eu la stupidité de se lier à un jar sauvage et passer ensuite sa vie à migrer au fil des saisons à la suite de son oiseau. Conte du lignage de Tom Blaireau. Le matin se leva, trop tôt et trop lumineux, sur le troisième jour de visite du fou. Mon hôte s'était réveillé avant moi, et si l'alcool ou un coucher tardif avait quelque effet sur lui, il n'en manifestait rien. La journée promettant déjà d'être torride, il avait réduit le feu de cuisine au plus doux, de quoi faire bouillir de l'eau pour le gruau, sans plus. Je sortis, ouvris mon poulailler pour libérer mes volailles, et menai la ponette et la jument du fou sur un versant herbu face à l'océan. Je laissai ma petite monture errer à sa guise, mais attachai Malta à un piquet. Après m'avoir lancé un regard de reproche, elle s'attaqua à l'herbe touffue comme si elle ne pouvait rêver mieux. Je restai un moment sur le pré à contempler la mer calme. Sous le soleil vif du matin, on eût dit une vaste plaque bleutée en acier martelé, d'où montait une brise imperceptible qui agitait les mèches de mes cheveux. J'eus l'impression qu'on me prononçait une phrase à l'oreille et je la répétais tout haut. Il est temps de changer.
Un temps de changement,
fit le loup, comme un écho. Ce n'était pourtant pas exactement ce que j'avais dit, mais sa version paraissait mieux rendre compte de la réalité. Je m'étirai, puis fis rouler mes épaules en laissant le vent léger emporter ma migraine. Mes yeux se posèrent sur mes mains tendues devant moi, et je me mis soudain à les examiner attentivement. C'était celle d'un fermier, rude et calleuse, couverte de taches sombres dues au contact avec la terre et à l'exposition aux intempéries. Je passai mes doigts sur mes joues hérissées d'un chaume dru. Je ne m'étais pas donné la peine de me raser depuis plusieurs jours. Mes vêtements, propres et encore bons à l'usage, portaient néanmoins, comme mes mains, les traces de mon travail quotidien, en plus des pièces que j'y avais cousues au cours des années. Cette tenue, qui me paraissait confortable et parfaitement séante, prit soudain des allures de déguisement, de costume endossé pour me protéger durant mes années de repos et de tranquillité. L'envie me saisit tout à coup de me dépouiller de cette existence et de devenir, non le Fitz que j'avais été, mais celui que j'aurais pu être si on ne m'avait pas cru mort. Un frisson étrange me parcourut, et il me revint brusquement en mémoire un matin d'été de mon enfance, où j'avais observé les efforts victorieux d'un papillon pour s'extraire de sa chrysalide. Avait-il éprouvé alors ce que je ressentais aujourd'hui? Cette impression que l'enveloppe rigide et translucide qui l'abritait jusque-là était soudain d'une exiguïté insupportable. Je pris une profonde inspiration, la bloquai, puis la relâchai en un long soupir. Je pensais qu'elle emporterait le brutal sentiment d'insatisfaction qui s'était emparé de moi, et cela fut vrai, mais en partie seulement. « Un temps de changement », avait dit le loup. « Eh bien, en quoi allons-nous nous changer alors ?»« Toi, je n'en sais rien. Je constate seulement que tu es en train de changer, et parfois, cela m'effraie. En ce qui me concerne, la transformation est plus simple. Je vieillis. » Je lui lançai un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Moi aussi, » fis-je. « Non, c'est faux. Tu avances en âge, mais tu ne vieillis pas comme moi. C'est la vérité. Tu le sais aussi bien que moi. » Le nier n'aurait pas rimé à grand-chose. « Eh bien ?» lui demandai-je d'un ton de défi en dissimulant sous un masque de bravade le malaise qui m'avait envahi tout à coup. « Eh bien, le temps d'une décision approche, et il faudra que ce soit une décision prise de notre propre chef et non dictée par les événements. Je crois que tu devrais parler au fou de notre séjour chez ceux du lignage, non parce qu'il voudra ou pourra décider à notre place, mais parce que nous réfléchissons mieux, toi et moi, quand nous partageons nos pensées avec lui. » De la part du loup, c'était là un discours minutieusement structuré, un raisonnement presque trop humain pour la partie de moi-même qui marchait à quatre pattes. Je mis un genou en terre à côté de lui et jetai mes bras autour de son cou. Effrayé pour un motif que je préférais laisser dans l'obscurité, je le serrai fort contre moi, comme si je pouvais l'attirer à l'intérieur de ma poitrine et l'y maintenir à jamais. Il supporta un moment mon étreinte, puis il baissa brusquement la tête et s'écarta d'un bond. Il s'ébroua du museau à la queue pour remettre de l'ordre dans son pelage ébouriffé, puis se tourna vers la mer comme s'il étudiait un nouveau terrain de chasse. « Je lui parlerai ce soir, » dis-je. Il me regarda par-dessus son épaule, la truffe baissée, les oreilles pointées vers moi. Ses yeux brillaient, et j'y vis danser une étincelle de son espièglerie d'antan. « Je le sais, petit frère, ne crains rien. » Puis, avec un saut d'une grâce qui démentait ses années, il s'élança, et se changea en un brouillard gris qui se fondit aussitôt dans les buissons broussailleux et les grosses touffes d'herbe du versant. Je ne le voyais plus, tant il était maître dans l'art du camouflage. Mais mon cœur l'accompagnait comme toujours. « Mon cœur saura toujours le trouver, » me dis-je. « Il saura toujours détecter un lieu où nous serons en contact et ne ferons qu'un. » Je lui envoyai cette pensée, mais il n'y répondit pas. Je regagnai la chaumière et ramassai au passage les œufs du jour dans le poulailler. Le fou en fit cuire quelques-uns dans les braises de l'âtre pendant que je préparais la tisane, puis nous emportâmes notre repas à l'extérieur, dans le matin bleu, et nous prîmes notre petit déjeuner sous l'auvent. La brise de mer ne parvenait pas jusqu'à ma combe et les feuilles des arbres restaient immobiles. Les seuls bruits provenaient des poules qui gloussaient en grattant la terre de la cour. Cependant, je ne pris conscience du silence que j'avais gardé jusque-là qu'au moment où le fou le rompit. « Il fait bon vivre ici, » fit-il, en désignant de sa cuillère les arbres alentour. le ruisseau, les bois, les falaises et les grèves non loin, je comprends que tu préfères cela à Castelserre. » Il avait toujours eu le talent de semer la confusion dans mes idées. « Je ne sais pas vraiment si c'est une question de préférence, » répondis-je d'une voix lente. « Je n'ai pas comparé les deux pour décider où je voulais m'installer. Le premier hiver que j'ai passé ici, c'était à cause d'un orage qui nous avait poussés à nous abriter sous les arbres. Nous avons découvert une vieille piste carrossable qui nous a conduit à une chaumière abandonnée, celle où nous nous trouvons aujourd'hui, où nous avons cherché refuge. » Je haussai les épaules. « Nous n'en sommes jamais repartis. » Il pencha la tête. « Ainsi, avec le monde tout entier où t'installer à ta guise, tu n'as pas choisi. Tu as simplement cessé un jour de vagabonder. » « Oui, tu dois avoir raison. » Je faillis retenir les mots qui me vinrent alors, car ils n'avaient apparemment aucun rapport avec notre conversation. Forge se situe au bout de la route là-bas. « Et c'est ce qui t'a attiré ici ?»« Je ne crois pas. » »« J'y suis retourné, en effet, en voir les ruines et me rappeler le village tel que je l'avais connu autrefois. Il est désert aujourd'hui. D'ordinaire, il y a toujours des gens pour fouiller les décombres et récupérer ce qui peut l'être, mais pas à Forge. Trop de souvenirs sinistres y restent associés, » dit le fou. « Forge n'a été que le premier d'une longue série, mais c'est lui qui a le plus marqué les esprits, et c'est de son nom qu'on a tiré celui qui a servi à désigner l'horreur qui s'en est suivie. J'aimerais savoir combien de personnes se sont fait forgiser au bout du compte. » Je m'agitais, mal à l'aise, puis me levai pour prendre au fou son assiette vide. 15 ans après, j'éprouvais encore du mal à évoquer l'époque dont il parlait. Depuis des années, les pirates rouges lançaient des attaques rapides sur nos côtes pour s'emparer de nos richesses, mais c'est seulement quand ils s'étaient mis à dépouiller nos compatriotes de leur humanité que nous avions laissé notre courroux contre eux donner sa pleine mesure. Leur fléau s'était abattu d'abord sur Forge. Les villageois qu'ils avaient enlevés étaient revenus sains et saufs dans leur famille, mais ce n'étaient plus que des monstres dépourvus d'âme. Pendant quelque temps, j'avais eu pour mission de chercher les forgisés et de les éliminer. Il s'agissait là d'une de mes nombreuses et déplaisantes responsabilités en tant qu'assassin royal. Mais cela se passait il y a bien longtemps, me dis-je. Ce Fitz-là n'existe plus. C'est loin dans le passé, répondis-je au fou. Tout cela est fini aujourd'hui.
Certains le prétendent, en effet. D'autres le contestent. Certains ne démordent pas de leur haine des Outriliens et affirment que les dragons que nous leur avons envoyés se sont montrés trop cléments. D'autres, naturellement, répondent que la guerre est derrière nous et doit y rester, car les relations qu'entretiennent les six duchés et les îles d'outre-mer ont oscillé de tout temps entre le commerce et le conflit déclaré. En venant chez toi, je suis passé par une taverne où j'ai entendu dire que la reine Kétrikène cherche à négocier à la fois la paix et une alliance marchande avec les Outriliens. Il paraîtrait qu'elle va donner le prince de Voir comme époux à une Narcheska d'outre-mer pour sceller le traité qu'elle propose.
Une Narcheska ? Le fou haussa les sourcils.
L'équivalent d'une princesse, je suppose. À tout le moins, la fille d'un noble de grande influence.
Ah. Je m'efforçais de dissimuler le trouble dans lequel me jetait cette nouvelle. Ce ne sera pas la première fois que l'on conclut ainsi des tractations diplomatiques. Songe à la façon dont Kétrikène est devenue l'épouse de vérité. Leur union n'avait d'autre but que de confirmer notre alliance avec le royaume des montagnes, et pourtant elle s'est révélée beaucoup plus profonde à la longue.
« Oui, c'est vrai, »
répondit le fou, mais d'un ton neutre qui me laissa perplexe. J'emportais nos bols à l'intérieur pour les laver, tout en me demandant comment Devoir appréciait de servir de gage dans un traité. Je chassais néanmoins cette interrogation de mon esprit. Kétrikène avait dû l'élever dans la tradition des montagnes, où le souverain était toujours au service du peuple. Devoir. Eh bien, Devoir accomplirait son devoir, me dis-je. Il l'accepterait certainement sans poser de questions, tout comme Ketriken, avait accepté son mariage arrangé avec Vérité. Je remarquai que la barrique d'eau était déjà presque vide. Le fou avait toujours été d'une propreté et d'une hygiène méticuleuse, et il utilisait pour cela 3 fois plus d'eau que quiconque. Je pris les seaux et ressortis. « Je descends au ruisseau. » Il se leva d'un bond agile. « Je t'accompagne. » Il descendit donc à mes côtés le sentier moucheté de taches de soleil jusqu'à la cuvette que j'avais creusée et bordée de pierres dans la berge du petit cours d'eau afin de remplir plus facilement mes seaux. Le fou profita de l'occasion pour se laver les mains et se désaltérer longuement. En se redressant, il balaya soudain les alentours du regard. « Où est Œil de Nuit ?» Je me redressai à mon tour, les seaux pleins au bout des bras, leur poids s'équilibrant. « Bah, il aime bien courir seul, de temps en temps, et il... » Une violente douleur me saisit, et je lâchai mes seaux pour porter les mains à ma gorge, avant de me rendre compte que ce n'était pas moi qui avais mal. Le fou croisa mon regard, et l'or de son teint était devenu couleur de plomb. Il dut percevoir, je pense, une bribe de l'effroi qui me tenaillait. Je tendis mon esprit vers Œil de Nuit, le trouvai, et partis en trombe. Je fonçai droit devant moi dans les bois, sans égard pour mes vêtements ni ma personne, à travers alliés et broussailles qui me barraient la route et s'accrochaient à moi. Le loup suffoquait. Ses efforts angoissés pour avaler quelques goulets d'air faisaient un contrepoint moqueur à ma respiration saccadée, et je m'efforçais d'empêcher son affolement de me contaminer. Tout en courant, je dégainai mon poignard, prêt à en découdre avec celui qui s'en prenait à Œil de Nuit. Mais quand j'émergeais dans la clairière proche du bassin au castor, je découvris le loup seul, en train de se tordre sur la rive. D'une patte, il se griffait la gueule, mâchoire grande ouverte. Un gros poisson à demi dévoré gisait sur les galets près de lui. Œil de Nuit se mit à reculer par sursaut, en agitant la tête en tous sens pour déloger ce qui bloquait sa trachée. Je me jetai à genoux à ses côtés. « Laisse-moi faire !» lui criai-je d'un ton suppliant, mais il ne devait même pas m'entendre. Le rouge de la terreur et l'affolement coloraient toutes ses pensées. Je tentai de le saisir d'un bras pour l'immobiliser, mais il s'écarta de moi d'une violente ruade et secoua frénétiquement la tête sans parvenir à se dégager la gorge. Je me précipitai sur lui et le plaquai au sol. Je tombai sur sa cage thoracique et lui sauvai ainsi la vie sans le faire exprès. Le poids de mon corps expulsa le morceau de poisson qui bloquait sa respiration. Sans prendre garde à ses crocs, j'enfonçai la main dans sa gueule, saisis le bout de chair à demi mâché et le jetai au loin. Je sentis le loup inspirer brutalement, et je m'écartai de son poitrail. Il se releva en chancelant. Pour ma part, je n'avais pas la force de me tenir debout. « Tu t'étranglais avec du poisson !» m'exclamai-je d'une voix chevrotante. « J'aurais dû m'en douter. Ça t'apprendra à vouloir avaler tout rond sans mâcher !» Je repris mon souffle, plus soulagé que je n'aurais su le dire. Cependant, mon soulagement fut de courte durée. Le loup fit 2 pas en titubant, puis il s'effondra brutalement. Il ne suffoquait plus, mais une violente douleur grandissait en lui. « Que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il ? » s'écria le fou derrière moi. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il m'avait suivi, et je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. Je m'approchai à 4 pattes de mon compagnon, posai avec terreur la main sur lui, et sentit ce contact amplifier notre lien. Une souffrance intérieure lui broyait la poitrine, si insupportable qu'il parvenait à peine à respirer. Son cœur tonnait à coups irréguliers dans ses oreilles, et ses paupières entr'ouvertes laissaient voir ses yeux qui roulaient follement dans leurs orbites. Sa langue pendait de sa gueule, inerte. « Œil de Nuit, mon frère !» lui criai-je, tout en sachant qu'il m'entendait à peine. Je tendis ma volonté vers lui pour lui donner ma force, et ce que je perçus me laissa incrédule. Il m'évitait, il s'écartait de mon esprit, il refusait, autant que son état le lui permettait, le lien que nous partagions depuis si longtemps. Alors qu'il jetait un voile sur ses pensées, je le sentis s'éloigner de moi pour s'enfoncer dans une grisaille que je ne pouvais pénétrer. Je ne pus en supporter davantage. « Non !» hurlai-je, en jetant ma conscience sur ses traces. Comme la barrière grise ne cédait pas devant mon vif, j'employai l'art pour la crever, me servant instinctivement et sans me préoccuper des conséquences de toutes les magies dont je disposais pour rattraper le loup. Et de fait, je le rattrapais. Je me retrouvais soudain avec lui, mon esprit mêlé au sien d'une façon que je n'avais jamais connue. Son corps était devenu le mien. Bien des années auparavant, quand Royal m'avait tué, j'avais fui l'enveloppe meurtrie de ma chair pour chercher refuge dans celle d'Œil de Nuit. J'avais pris place dans le corps du loup, perçu ses pensées, vu le monde par ses yeux, où il allait, j'allais, passager de sa vie. Pour finir, Burick et Imbre nous avaient rappelés auprès de ma tombe et m'avaient restauré dans ma dépouille glacée. Mais cette fois-ci, le phénomène était différent. J'avais pris possession de son corps, et ma conscience d'humain dominait la sienne. Je m'installais en lui et lui imposais de se calmer, de mettre fin à sa résistance éperdue. Je ne prêtais aucune attention au dégoût que lui inspirait mon attitude et lui expliquais seulement qu'elle était nécessaire. Si je n'agissais pas ainsi, il allait mourir. Il cessa de lutter contre moi, mais pas comme s'il se rendait à mes raisons. On eût plutôt dit qu'il abandonnait dédaigneusement ce que je lui avais dérobé. Je décidai de m'en inquiéter plus tard. Son amour-propre était le cadet de mes soucis pour le moment. J'éprouvais une sensation curieuse à me trouver ainsi dans son corps, un peu comme si j'avais endossé les vêtements d'un autre. J'avais la perception précise de tout son organisme, des griffes jusqu'au bout de la queue. L'air glissait bizarrement sur ma langue, et malgré mon angoisse, je comprenais avec acuité les messages que portaient les odeurs du jour. Je humais la transpiration de mon corps de Fitz, non loin de là, et j'avais vaguement conscience du fou qui le secouait, accroupi auprès de lui, mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. J'avais découvert l'origine de la douleur qui taraudait celui que j'occupais. Elle provenait de mon cœur agité de soubresauts. En contraignant le loup au calme, j'avais quelque peu aidé son organisme. Mais le flux et le reflux de son sang, irrégulier, erratique, indiquaient un grave désordre. Jeter un coup d'œil dans une cave n'a rien à voir avec le fait d'y descendre pour l'inspecter. C'est là un piètre parallèle, je le sais, mais je n'en trouve pas de meilleur. Ayant pris conscience du cœur du loup, je devins tout à coup ce même cœur. J'ignore comment je m'y pris. J'eus l'impression que je m'étais acharné à ouvrir une porte verrouillée parce que le salut m'attendait de l'autre côté et qu'elle avait brusquement cédé sous mes assauts. Je devins donc cœur et compris aussitôt ma fonction dans l'organisme. Je compris aussi que quelque chose entravait cette fonction. Le muscle s'était aminci et fatigué avec l'âge. Toujours en tant que cœur, je m'apaisais et cherchais, avec le peu de force qui me restait, un rythme plus équilibré. Quand j'y parvins, la douleur qui m'oppressait s'atténua, et je me remis au travail. Œil de Nuit s'était retiré dans un coin éloigné de notre conscience. Je le laissais bouder là et me concentrais sur la tâche que je devais accomplir. À quoi comparer ce que je fis? À du tissage? À la construction d'un mur? Peut-être plutôt au raccommodage du talon élimé d'une chaussette. Je sentis que je bâtissais, ou plus exactement, que je rebâtissais ce que le temps avait fissuré. Je savais aussi que ce n'était pas moi, Fitz, qui agissait, mais qu'en tant que partie de l'organisme d'un loup, j'aidais cet organisme à retrouver les pas d'une danse familière. Grâce à ma concentration, il effectuait simplement son travail plus rapidement. C'était tout, me disais-je, mal à l'aise, en sentant que quelque part, quelqu'un devrait payer cette accélération des fonctions corporelles. Quand je perçus que l'ouvrage était achevé, je me reculais. Je n'étais plus cœur, mais c'est avec fierté que je constatais la vigueur et la régularité nouvelle avec lesquelles il battait. Toutefois, je ressentis en même temps une brusque terreur. Je ne me trouvais pas dans mon corps, et j'ignorais complètement ce qui lui était arrivé pendant que j'étais dans celui d'Œil de Nuit. Je n'avais pas la moindre idée du temps qui s'était écoulé depuis que je l'avais quitté. Désorienté, je me tournai vers le loup, mais il garda ses distances. « C'était seulement pour t'aider, » protestai-je. Il resta muet. J'avais du mal à débrouiller ses pensées, mais ses émotions étaient parfaitement nettes. Il se sentait insulté et humilié plus qu'il ne l'avait jamais été. « Très bien, » dis-je d'un ton glacé. « Prends-le comme tu veux. » Et je me retirai, furieux. Du moins, je voulus me retirer. Mais tout avait pris un aspect extrêmement déconcertant. Je savais que je devais aller quelque part, mais les concepts de « quelque part » et « d'aller » n'avaient plus de signification. Cela me rappela un peu la sensation qu'on éprouve quand on se laisse emporter par le flux de l'art sans y être préparé. Ce fleuve de magie peut mettre en lambeaux un pratiquant inexpérimenté et tirer un homme sur les eaux de l'esprit au point qu'il ne lui reste nulle conscience de soi. Cependant, ce que j'éprouvais était différent. Je ne me sentais ni ouvert aux quatre vents, ni réduit en charpie, mais pris au piège de l'écheveau de moi-même, flottant au gré du courant sans rien à quoi me raccrocher sinon le corps d'œil de nuit. J'entendais le fou crier mon nom, mais cela ne me servait à rien car je percevais sa voix par les oreilles du loup. « Tu vois ?» fit ce dernier d'un ton lugubre. « Tu vois ce que tu nous as fait ? J'ai tenté de te prévenir de rester à l'écart. » « J'arriverai à tout remettre à sa place, » affirmai-je, éperdu. Il sentit comme moi que c'était moins un mensonge que l'expression de mes efforts frénétiques pour réaliser ce vœu. Je me séparai de lui. Je me coupais de ses sens, refusais le toucher, la vue, l'ouïe, niais le goût de poussière sur ma langue et l'odeur de mon corps proche. Je détachais ma conscience de la sienne, mais restais ensuite ballant, en suspens. J'ignorais comment regagner ma propre enveloppe charnelle. Puis me vint une perception, un tiraillement infime, moins sensible encore que si quelqu'un avait arraché un fil de ma chemise. Je me tendis vers cette sensation à peine discernable qui me venait de mon corps, mais quand je voulus la saisir, ce fut comme si j'essayais d'attraper un rayon de soleil. Je me démenais comme un diable, puis finis par retomber dans mon moi informe avec l'impression de n'avoir réussi qu'à disperser le vague message en cherchant à m'y raccrocher. Alors je concentrai ma conscience et l'obligeai à se tenir immobile, prête à passer à l'action comme un chat aux aguets devant un trou de souris. Le tiraillement réapparut, aussi imprécis que la lumière de la lune tamisée par les frondaisons. Par un effort de volonté, je ne bougeai pas, m'imposant le calme pendant que la sensation me cherchait. Pareil à un mince fil d'or, elle me toucha enfin. Elle me sonda, puis, une fois certaine qu'il s'agissait bien de moi, elle me saisit et me ramena vers elle par à coup. Bien qu'insistante, elle était aussi fragile qu'un cheveu, et je ne pouvais rien faire sans la rompre. Non. Il me fallait demeurer inerte, redoutant à chaque instant que le contact ne se brise, et la laisser m'entraîner, à sa façon hésitante, loin du loup, vers moi-même. L'attraction devint de plus en plus rapide et je pus soudain agir de ma propre volonté. Je sentis brutalement la forme étriquée de mon corps et m'y déversai, horrifié de constater à quel point le récipient de mon âme s'était refroidi et rigidifié. Mes paupières étaient collantes et mes yeux secs d'être restés ouverts sans ciller. Et tout d'abord, je ne vis rien. De même, j'étais incapable de parler. Car j'avais la bouche et la gorge desséchées comme du vieux cuir. Je voulus rouler sur le flanc, mais mes muscles raidis par les crampes refusaient de m'obéir, et je ne parvins qu'à m'agiter faiblement. Pourtant, la douleur que je ressentis m'emplit de bonheur, car c'était la mienne, c'était la sensation de ma chair à moi qui reprenait contact avec mon esprit. Je poussai un soupir de soulagement qui ressemblait à un croassement. Les mains en coupe, le fou fit couler sur mes lèvres entr'ouvertes un filet d'eau qui humecta ma gorge sèche. La vue me revint, d'abord brouillée, puis assez nette pour me révéler que le soleil avait largement dépassé le zénith. J'étais donc resté plusieurs heures en dehors de mon corps. Quelque temps après, je parvins à me redresser sur mon séant et je tendis aussitôt mon esprit vers œil de nuit. Il était toujours couché dans la poussière près de moi. Il ne dormait pas. Il était plongé dans une inconscience plus profonde que le sommeil. Je posai la main sur lui et je perçus son esprit très loin, semblable à une petite luciole. Je sentis aussi le battement régulier de son cœur et une immense satisfaction m'envahit. J'essayai avec douceur de contacter sa conscience. « Va-t'en !» Il m'en voulait toujours, mais cela ne parvint pas à m'affecter. Sa respiration fonctionnait. Son cœur battait rythmiquement. Il était peut-être épuisé, j'étais peut-être encore désorienté, mais je ne regrettais rien s'il avait la vie sauve. Peu après, je localisai le fou. Il était agenouillé près de moi, un bras autour de mes épaules. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il me tenait. Je me tournai vers lui, la tête ballottante. La fatigue tirait ses traits et des rides de souffrance creusaient son front. Mais il parvint à m'adresser un sourire contraint.
J'ignorais si cela marcherait, mais c'est tout ce qu'il m'est venu à l'esprit de tenter.
Il fallut un moment pour que ses propos prennent un sens pour moi. Je baissai les yeux sur mon poignet. L'empreinte de ses doigts avait retrouvé de l'éclat. Elle n'était pas argentée, comme lorsqu'il m'avait touché du bout de ses doigts enduits d'art, mais sa teinte grise était plus sombre que naguère. Le fil de conscience qui nous reliait avait gagné un tauron. Son geste me laissa épouvanté. « Je dois sans doute te remercier, » dis-je sans amabilité. J'avais l'impression d'un viol. Je lui en voulais de m'avoir touché de cette manière sans mon assentiment. Réaction puérile, certes, mais que je n'avais pas la force de surmonter. Il éclata d'un rire moqueur, mais exagérément fort.
Je pensais bien que ça ne te plairait pas. Pour autant, mon ami, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne pouvais pas faire autrement.
Il reprit son souffle, la respiration hachée. D'une voix plus douce, il ajouta.
Et voici que tout recommence.
Je suis à tes côtés depuis 2 jours à peine, que déjà le destin t'appelle.
Sera-ce toujours le prix à payer pour que nous nous retrouvions? Devrais-je toujours t'agiter devant la gueule de la mort afin d'attirer ce monde sur une voie meilleure?
Son bras se serra sur mes épaules.
Ah, oh, Fitz, comment arrives-tu à me pardonner constamment ce que je te fais subir?
Je n'y arrivais pas, mais je me tus et détournai le regard. J'ai besoin de rester seul un moment, je t'en prie. Une bulle de silence grossit entre nous. Puis le fou répondit.
Naturellement.
Il laissa tomber son bras de mes épaules et s'écarta brusquement de moi, à mon grand soulagement. À son contact, le lien d'art qui nous unissait se renforçait, et cela me donnait une impression de vulnérabilité. Le fou ignorait comment franchir la distance qui séparait nos deux esprits pour venir fouiller dans le mien, mais cela n'atténuait pas ma peur. Un couteau posé sur ma gorge restait une menace, même si la main qui le tenait obéissait aux meilleures intentions. Je m'efforçais de ne pas songer au revers de la pièce. Le fou, sans en avoir la moindre notion, m'était totalement ouvert dans ces moments-là aussi. Cette idée me taquina et, tentatrice, me donna l'envie d'essayer d'établir un contact plus total. Il me suffisait de demander au fou de poser à nouveau les doigts sur mon poignet. Je savais les possibilités que m'offrait ce toucher. Je pouvais m'engouffrer dans l'esprit de mon compagnon, découvrir tous ses secrets, voler toute son énergie. Je pouvais faire de son corps une extension du mien, me servir de sa vie à mes propres fins. Mais c'était là une envie honteuse. J'avais été témoin de ce qu'il advenait de ceux qui y cédaient. Comment aurais-je pu pardonner au fou de l'avoir réveillé en moi? La douleur familière d'une migraine d'art battait mes tempes, et tous mes muscles étaient endoloris, comme si je venais de livrer une longue bataille. J'avais l'impression d'avoir été écorché vif, au point que même le contact d'un bras ami me faisait souffrir. Je me levais tant bien que mal et me dirigeais vers le ruisseau d'un pas chancelant. La bouche desséchée, je voulus m'agenouiller sur la berge, mais il m'apparut plus facile de me coucher à plat ventre pour boire à même le courant. Une fois désaltéré, je m'aspergeais le visage et les cheveux, puis me frottais les yeux à m'en faire pleurer. Avec soulagement, je les sentis à nouveau humectés et ma vision s'éclaircit. Je me retournai vers mon loup toujours inerte, puis jetai un coup d'œil en direction du fou. Il se tenait à l'écart, les épaules voûtées, les lèvres serrées. Je l'avais blessé. Et je le regrettais. Il avait essayé de bien faire, et pourtant, une partie de moi-même persistait, entêtée, à lui en vouloir. Je cherchais une justification à cette attitude stupide,
et n'en trouvait pas. Parfois, malheureusement, savoir qu'on n'a pas le droit d'être en colère ne suffit pas à chasser cette colère.
« Ah, ça va mieux, » fis-je en secouant la tête pour faire tomber l'eau de mes cheveux, comme si je pouvais convaincre le fou, aussi bien que moi-même, que seule la soif était responsable de ma conduite. Il ne réagit pas. Je recueillis de l'eau dans le creux de mes mains et m'assis près du loup pour en faire couler un filet sur sa langue pendante. Au bout de quelques instants, il s'éveilla légèrement, assez pour rentrer sa langue dans sa gueule. Je fis un nouvel essai auprès du fou. « Je sais que tu as fait ce que tu as fait pour me sauver la vie. Merci. »
« Il nous a sauvé la vie à tous les deux. Il nous a évité une existence qui nous aurait anéantis tous les deux. »
Le loup n'avait pas ouvert les yeux, mais sa pensée brûlait de passion. N'empêche que ce qu'il a fait
était pire que ce que tu m'as fait, toi.
Je ne sus que répondre. Il m'était impossible de regretter de l'avoir maintenu en vie, et pourtant. Choisissant la facilité, je m'adressais au fou plutôt que de poursuivre le fil de cette idée. Tu nous as sauvés tous les deux. J'ignore comment j'étais entré dans Œil de Nuit. Grâce à l'art, je pense. Je m'interrompis, pris d'une brusque intuition. Était-ce à cela qu'Imbre faisait allusion quand il m'avait affirmé que l'art pouvait servir à soigner? Un frisson de répulsion me parcourut. J'avais imaginé un partage d'énergie, mais ce que j'avais fait... Non, je préférais écarter ce souvenir de mon esprit. Il fallait que j'essaye de le tirer d'affaire et je l'ai aidé, en effet. Mais ensuite, je ne parvenais plus à ressortir de lui. Si tu ne m'avais pas ramené... Je laissais ma phrase en suspens. Il n'existait pas de façon simple d'expliquer au fou le danger dont il nous avait écartés. Je compris alors, sans le moindre doute, que je lui raconterais l'année que le loup et moi avions passé parmi ceux du lignage. Retournons à la maison. J'ai de quoi préparer de la tisane d'écorce elfique, et j'ai besoin de repos autant qu'œil de nuit.
« Et moi donc ?» fit le fou, d'une voix sans force.
Je le regardais, notant son teint plombé et ses traits tirés par la fatigue, ainsi que les rides profondes qui barraient son front, et je me sentis envahi de remords. Profane en la matière, sans assistance, il avait pourtant réussi à se servir de l'art pour me replacer dans mon corps. La magie ne coulait pas dans ses veines comme dans les miennes, et il n'y avait aucune prédisposition héréditaire. Tout ce qu'il possédait, c'était de vieilles marques d'art au bout des doigts, souvenir du jour où il avait effleuré par accident les mains de vérité. Ses mains gantées d'art et le lien bien mince que nous avions tissé autrefois par le biais de ses marques. Sans autres outils, il avait risqué sa vie pour me ramener dans mon enveloppe charnelle. Il ne s'était laissé arrêter ni par la peur, ni par sa méconnaissance du phénomène, ce qui l'avait empêché de prendre la mesure du péril auquel il s'exposait. Cela ajoutait-il à la bravoure de son acte, ou la diminuait-il? Je n'en savais rien. Mais je n'avais rien trouvé de mieux pour le remercier que de le rembarrer. Je me remémorais la première fois où Vérité avait puisé dans mon énergie pour renforcer son art. Je m'étais effondré, comme saigné à blanc. Pourtant, le fou, lui, tenait debout. Il vacillait légèrement, mais il tenait debout, et il ne se plaignait pas non plus de migraines qui devaient lui marteler les tempes. Je m'étonnais, ainsi que cela m'était déjà souvent arrivé, de la résistance que cachait sa mince silhouette. Il dut sentir que je le regardais, car il tourna les yeux vers moi. Je lui fis un sourire hésitant, auquel il répondit par une grimace mi-figue mi-raisin. Œil de Nuit roula sur le ventre, puis se leva gauchement. Du pas chancelant d'un poulain nouveau-né, il se rendit au ruisseau et se désaltéra. Sa soif étanchée, nous nous sentîmes tous deux un peu mieux, même si mes jambes tremblaient d'épuisement. « Le chemin va être long jusqu'à la maison, » dis-je. D'un ton qui se voulait neutre, le fou me demanda, « Tu y arriveras ?»
avec un peu d'aide. Je lui tendis la main, il s'approcha, la saisit et l'attira tandis que je me redressais. Le bras passé dans le mien, il se mit en route à mes côtés, mais je pense que je le soutenais plus que je ne m'appuyais sur lui. Le loup nous emboîta lentement le pas. Je serrai fermement les dents et me retins de tendre mon esprit vers celui du fou par le biais du lien d'art qui pendait entre nous comme une chaîne d'argent. « Je résisterai à la tentation, me dis-je. Si vérité y est parvenue, moi aussi. » Le fou rompit le silence de la forêt que le soleil mouchetait de taches lumineuses. « J'ai cru, tout d'abord, que tu avais une crise comme cela t'arrivait autrefois, et puis, en te voyant étendu par terre, complètement immobile, j'ai craint que tu ne sois en train de mourir. Tu avais les yeux ouverts, le regard fixe, et je ne sentais plus ton pouls. Pourtant, tu avais parfois un soubresaut et tu reprenais ton souffle. » Il se tut un instant. « Comme tu ne réagissais à rien, je n'ai pas vu d'autre solution que de plonger à ta recherche. » Ces paroles m'horrifièrent. Je n'étais pas sûr de vouloir apprendre ce que mon corps avait fait en mon absence. C'était sans doute l'unique moyen de me sauver la vie. « Et la mienne ?» répondit-il à mi-voix. « Car, quoi qu'il nous en coûte à l'un ou à l'autre, je dois t'empêcher de mourir. Tu es le coin qu'il me faut enfoncer, Fitz, et j'en suis plus navré que je ne saurais l'exprimer. » Tout en parlant ainsi, il s'était tourné vers moi. La franchise de son regard ambre se combina aux liens qui nous unissaient, or et argent entremêlés, et je reconnus et refusais aussitôt une vérité que je n'avais nulle envie d'accepter. Derrière nous, le loup marchait lentement, la tête basse,